Saga CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.
Je voudrais tout d'abord remercier le Syncas, les organisateurs de cette journée, de m'avoir invité pour communiquer à ce colloque consacré à la question complexe du harcèlement moral, notamment au travail, chez les cadres dirigeants du secteur médico-social. Alors en effet, peut-être qu'un point commun que nous avons avec la démarche que vous essayez d'impulser, c'est qu'effectivement l'équipe à laquelle j'appartiens, l'équipe donc psychologie du travail et clinique de l'activité, créée et dirigée jusqu'il y a peu par le professeur Yves Clos, c'est une équipe qui s'est distinguée par les travaux qu'elle réalise dans les milieux de travail ordinaire. Une équipe qui a pour perspective, et c'est là qu'est le lien, je pense, la transformation des situations de travail, le développement du pouvoir d'agir des collectifs et des individus sur leur milieu, et qui a pour moyen l'intervention en milieu de travail ordinaire. Parce qu'en effet, l'équipe est composée d'enseignants-chercheurs, elle est composée de praticiens, mais nous sommes tous des intervenants en milieu de travail. Aussi bien auprès d'institutions publiques, dans le secteur privé, ou encore dans les milieux associatifs. Et oui, je vous rassure, aussi dans le milieu syndical. Le milieu syndical, comme d'autres milieux professionnels, est concerné et questionné par le réel de l'activité et à ce titre, bien évidemment, peut se mobiliser et se mettre au travail comme d'autres professionnels dans d'autres milieux et dans d'autres champs. Alors, pour traiter cette question du rapport entre santé et travail, parce qu'effectivement, j'ai choisi finalement pour l'axe de cette présentation de se demander un peu comment, dans un contexte d'exigences internes et externes accrues, qui peuvent potentiellement mettre en tension la santé des cadres dirigeants du secteur médico-social et leurs collaborateurs, finalement, comment peuvent-ils faire pour développer leur propre santé, celle de leurs collaborateurs et de l'organisation du travail? Donc, car il s'agit bien de cela, finalement, derrière cette question du harcèlement, notamment moral, quel est le rapport entre santé et travail et quelles sont les conditions? Pour traiter donc de cette question, mon propos portera sur une notion importante quand on s'intéresse au rapport entre santé et travail, c'est celle de qualité empêchée. Et pour éclairer la chose, je vais m'appuyer sur un exemple qui a un avantage central pour ce dont on parle ici aujourd'hui. Pour vous parler de notre action, je vais finalement utiliser un détour et j'emprunterai à la sociologie un exemple tiré du terrain où ce qui est mis en tension chez les salariés, ce qui est en conflit en eux et entre eux et avec leur hiérarchie, c'est leur conception du travail bien fait. Il s'agit d'une activité de service à la poste. J'ai choisi cet exemple car il montre toute l'ampleur du problème dans la mesure où il se situe dans une entreprise qui a justement fait l'objet de controverses sociales aiguës. Ce qui est public est devenu compliqué. C'est pour cela que je vais vous parler de choses concrètes, les plus ordinaires, car comme vous le savez, le diable se niche dans les détails. Nous avons tous vécu comme usagers ces situations, ce qui nous permet de réfléchir à ceci. Faire du service, faire du commerce, ce n'est pas la même chose. C'est compliqué de faire les deux à la fois. La sociologue Fabienne Annick, à qui j'emprunte cet exemple, a mené son enquête dans des bureaux de poste en banlieue parisienne. Et la situation que je vais vous présenter se déroule pendant un module de formation pour les guichetières du bureau. Je dis guichetières parce que le groupe était exclusivement constitué de femmes ce jour-là. Le but de ce module, placé sur la responsabilité d'un formateur et d'un animateur des ventes, est de promouvoir les scripts comportementaux de l'interaction au guichet. La formation va porter sur l'utilisation de scripts langagiers. Il s'agit donc d'enseigner aux guichetières ce qu'il faut désormais dire au client, comment il faut le lui dire dans des situations types. C'est la transmission du standard de la bonne manière de faire et de la bonne manière de dire au moyen de jeux de rôle. La séquence dont il va être question ici reprend un moment de dialogue de la vie ordinaire d'une formation finalement. Les guichetières sont venues pour se former, peut-être même pour se réformer. Je suis volontairement un petit peu terre à terre, non pas pour y rester, mais c'est la condition pour essayer d'y voir plus clair dans cette problématique complexe. La séquence que je reprends ici restitue le dialogue issu de ces jeux de rôle qui mettent en scène un client, je cite, qualifié de bougon et conservateur, qui sera interprété par l'animateur des ventes. Un profil client est ainsi d'emblée dessiné, n'est-ce pas ? Car c'est par cet animateur qui s'est sans doute cru plus malin que les autres, considérant que le client était d'emblée bougon. Quant à conservateur, je vous laisse voir. Sandra, guichetière, lui fait face. Elle a la charge de convaincre ce client bougon et conservateur, donc, de découvrir les produits de la poste et, si possible, de réaliser une vente. La scène se déroule intégralement jusqu'au moment où le formateur va interrompre Sandra. Et voilà ce qui s'échange entre eux à partir de là. Pour faciliter l'écoute, j'ai mis le texte de ces échanges sur des diapositives. Voilà, donc, le formateur intervient et dit à Sandra, « Ne dites pas « si j'étais vous » ou encore « à votre place » ou même « je vous comprends parce que moi », vous n'êtes pas eux. » La guichetière répond, « Mais les clients aiment bien qu'on ait une relation de confiance avec eux. » Le formateur continue, « Je suis d'accord, vous devez le faire, mais établir une relation de confiance n'implique pas que vous deviez vous mettre à leur place. Vous, vous êtes la poste. Alors, dites plutôt, et c'est là qu'est introduit le script langagier, la poste vous propose, ou la poste s'engage. Vous devez rechercher ce que la poste peut proposer de mieux. » Fabienne Annick note une pointe d'ironie qui commence à apparaître dans les échanges, dans le propos de la guichetière. De mieux pour eux ou de mieux pour la poste? Le formateur répond, c'est pareil. La poste propose ce qu'il y a de mieux pour son client. La chercheuse note des gloussements et des moqueries au sein du groupe. L'animateur des ventes intervient alors. Votre travail, c'est de satisfaire le client, c'est-à-dire répondre à ses demandes et identifier ses besoins latents. La psychologue que je suis est contente de découvrir que l'on peut connaître les besoins latents d'un sujet. On s'attend donc à apprendre ce que sont les besoins latents et on va même savoir ce qu'est un vrai professionnel. Donc le formateur poursuit, par exemple, si un client se présente avec un paquet qu'il a lui-même confectionné, indiquez-lui que la poste propose une gamme de prêts à expédier qui lui garantit un acheminement en toute sécurité. La guichetière répond alors, moi, quand je suis cliente quelque part, j'ai confiance en quelqu'un quand je sais que ce qu'il me propose, c'est ce qu'il aurait choisi pour lui-même. Et au guichet, quand je vois que les clients arrivent avec un paquet bien fait et bien fermé, je ne vois pas pourquoi, en toute confiance, j'irai lui dire de défaire son paquet et de payer 3 fois le prix de son acheminement pour acheter un colis poste. Animateur des ventes, eh bien c'est une erreur. Pour avoir confiance, le client a besoin d'avoir en face de lui un vrai professionnel. Et le vrai professionnel, donc, nous allons savoir, c'est un guichetier qui connaît ses produits. Voilà, le client ne vient pas voir Madame Michu qui, à sa place, ferait comme ci ou comme ça, mais Sandra ou Corinne ou Jackie, qui sont des guichetiers professionnels. Vous ne devez pas vous mettre à leur place. Ça, répond la guichetière, c'est sûr que si on se mettait à leur place, on ne vendrait pas beaucoup. Justement, vous ne vendez pas beaucoup, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je dis cela pour vous faire rire avec les guichetières qui rient, elles aussi, et de bon cœur d'ailleurs. Mais la réflexion sur le rire est très importante, car c'est compliqué le rire. Et là, soyons sérieux, ici c'est un rire à double fond, on pourrait dire. C'est un drôle de rire, c'est un rire de raillerie à l'égard de ce formateur et à travers lui à l'égard de la direction, avec sous-entendu « vous êtes trop loin pour savoir ce qu'est le travail réel ». C'est aussi un rire jaune. Cette situation est prévue pour faciliter le travail, or elle va le compliquer davantage parce que les guichetières savent et se disent qu'il va falloir retourner au travail avec tout ça. Et cela peut faire virer au cynique. De toute façon, ça va mal tourner. Le rire jaune, celui qui reste sur l'estomac, peut tourner côté cynisme. peut tourner au renoncement pour faire un travail qui se tient, c'est un rire qui peut aller vers la psychopathologie. Alors voilà, à partir de maintenant, je vais laisser cet exemple et en faire un commentaire. Il y a deux interprétations possibles. On peut penser que le passage du terme « usager » à celui de « client » constitue une rupture de contrat symbolique qui lie cette entreprise à son public et y voir un danger. Il peut même m'arriver de le penser. Et il y a une autre interprétation qui est du côté de l'action, pas seulement pour avoir une opinion, mais pour essayer de modifier les situations réelles. Et c'est que ce qui est difficile pour les guichetières, c'est le déni du conflit sur les critères de la qualité du travail. Je vous invite à prendre le temps d'entendre ce que je dis là, qui est fondamental, c'est même le fond du dossier. Quand la guichetière dit « je ne vois pas pourquoi il faudrait refaire un paquet bien fait », eh bien elle énonce là un critère de qualité. Qu'est-ce que c'est qu'un paquet bien fait ? Quels sont les critères d'un travail de qualité pour cette guichetière et pour ses collègues ? Les guichetières ne se voient pas à l'intérieur du travail qui est proposé par le formateur. Par exemple, bien connaître son public dénote qu'il y a du métier chez les guichetières. Il existe même des débats d'école entre elles. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas de qualité de vie au travail. La formulation a été évoquée ce matin. Il n'y a pas de qualité de vie au travail sans qualité du travail tout court. La qualité du travail, c'est-à-dire la qualité du geste, la qualité du produit, la qualité du service, la qualité de la vente, c'est tout ça la qualité du travail. Elle comporte toutes ces dimensions parce que c'est une notion multifacette et c'est pour ça que ça doit pouvoir se discuter. La qualité du travail est même une notion discutable par excellence. Il existe des conflits de critères sur la qualité du travail. Des conflits de critères, c'est-à-dire entre les choses, pas entre les gens. Le mot « conflit », et je souscris à la définition qui en a été donnée ce matin, j'y tiens, car il s'agit ici du conflit psychique, du conflit dynamique, pas de la querelle stérile interpersonnelle. Du coup, c'est profond, c'est ancré du côté du réel, ça va durer et ça va se répéter. Donc, ça se discute et ça nécessite des espaces pour pouvoir le faire. Quand il n'y a pas ça, des espaces dédiés, les conflits critères se déplacent sur les conflits de personnes. Et comme chacun a sa névrose personnelle, l'un est rigide, l'autre est fragile. D'ailleurs, s'agissant de la fragilité, il a été question de vulnérabilité ce matin, en soulignant que souvent la vulnérabilité individuelle était mise en cause dans certaines situations de défense, dans des situations de harcèlement. Je voudrais juste souligner que la vulnérabilité n'est pas individuelle. La vulnérabilité, elle est constitutive de l'humain. Elle est universelle à l'humain, la vulnérabilité. Nous sommes des sujets humains. C'est ce qui nous constitue. Elle n'est pas individuelle. Je referme la parenthèse. Donc, l'un est rigide, l'autre est fragile. Pour prolonger ce qui a été dit ce matin, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'un autre est pervers, un autre est agressif. La clinique nous montre tout de même que la réalité est plus riche que cela, fort heureusement. Nous n'avons pas affaire qu'à des pervers ou à des agressifs dans des situations de relations difficiles au travail. Donc tous les motifs sont bons et sont réunis pour permettre le développement de relations professionnelles difficiles, voire parfois explosives. Car nous pouvons l'affirmer aujourd'hui, tant la chose se vérifie sur le terrain, partout où la question du travail, la question de la qualité est devenu un sujet dont on ne parle plus, parfois même un sujet tabou, eh bien on observe une augmentation des conflits interpersonnels. On pourrait le dire comme ça, partout où il y a une déflation de la controverse professionnelle sur les critères de la qualité du travail, eh bien on observe une inflation des querelles interpersonnelles, parmi lesquelles les situations de harcèlement moral sont pléthores. Alors, les discussions sur les conditions de travail, ça a été évoqué tout à l'heure, s'agissant de la charte, c'est important, bien sûr. Mais même ces discussions sur les conditions de travail ignorent souvent ce conflit-là, celui qui porte sur les objets du travail, vraiment dans sa matérialité, dans son très, très concret. Pas sur les personnes, entre les choses, pas entre les gens. Attention, je ne suis pas en train de dire que le conflit est un but dans l'existence. Nous irions alors droit dans la psychopathologie du travail, et la y compris la psychopathologie ne serait pas loin non plus. Je parle du conflit en tant que moyen, moyen pour faire le tour des questions de métier, pour y voir plus clair dans ce qui achoppe. Et il est nécessaire d'instituer ce conflit pour soulever les énigmes, voir les conflits de critères qu'on n'avait pas vus, car nous avons tous des angles morts dans notre activité. L'institution du conflit sur les critères de la qualité du travail comme moyen, finalement, de quoi? Eh bien, comme moyen pour ne pas se mélanger tous les pinceaux des différents conflits. Instruire et instituer les conflits de critères sur la qualité du travail permet d'enrichir les autres, sinon ils s'empoisonnent et s'enveniment. Il est important de créer, d'inventer, de développer ces espaces de dialogue qui n'existent pas ou si peu. Les institutions qui existent sont rarement sur ces questions précises, rarement sur cette question du paquet bien fait, ou pas. Or, cette question, elles sont du côté de l'efficacité et de la permanence, et de la performance, pardon. Oui, la performance. Il en a été question ce matin. Bien que psychologue, ce terme ne nous impressionne pas, parce que la performance pour nous est aussi une condition de la santé, à condition effectivement de la regarder du côté de être performant, c'est se sentir efficace. C'est se reconnaître dans ce que l'on fait, pas seulement être reconnu, se reconnaître dans ce que l'on fait, c'est avoir au moins de temps en temps, la fierté du travail bien fait et pouvoir se dire aujourd'hui je n'ai pas démérité. Donc la performance, ça se discute. Et même, il faudrait dire performance au pluriel. Parce que finalement, selon le point de vue que l'on occupe, selon que l'on soit dirigeant ou selon que l'on soit collaborateur, eh bien, on n'en a pas la même définition, ni les mêmes critères. Et ce qui rend malade, c'est la performance gâchée, c'est l'énergie gaspillée. L'efficacité du travail, c'est arriver à faire correctement ce que l'on fait, sinon cela est dangereux pour la santé. Ici, chacun a à voir avec l'efficacité des établissements, l'efficacité du travail dans les établissements médico-sociaux. L'efficacité n'est pas seulement synonyme de rentabilité. Il faudrait d'ailleurs dire performance au pluriel. L'efficacité n'est pas seulement synonyme de rentabilité. Du point de vue gestionnaire, oui, bien sûr, elle l'est. Du point de vue des guichetiers et des guichetières, elle a plus à voir avec la qualité du travail, avec le service rendu. Alors comment fait-on avec cela ? Comment fait-on avec ces deux points de vue, autrement que d'entretenir la confrontation et le clivage entre eux? Le problème, c'est qu'il n'existe pas, ou très rarement, de lieu pour parler de ça, et cet écart pourtant naturel qui existe entre ces deux points de vue devient tabou. Et c'est ça qui est dangereux. Cet écart est dénié, et c'est ce déni qui est à l'origine de ce que l'on appelle les risques psychosociaux la plupart du temps. On peut comprendre que dans ces mutations qui leur sont demandées, ces agents puissent avoir le sentiment que leur activité se retourne contre eux, et plus largement même, contre une certaine qualité de la vie sociale. Car comme l'a fait remarquer le sociologue Everett Hughes, qui a beaucoup travaillé la question de la relation de service, dans les services, dit-il, on peut travailler avec l'usager, c'est ce qui est habituellement attendu, mais on peut travailler aussi contre lui. On peut travailler sur lui ou encore sans lui. Et la frontière entre servir et desservir n'est jamais étanche. On voit dans cet exemple que dans ce qui est demandé à ces agents se répètent des problèmes de conscience. Et la répétition des problèmes de conscience produit du ressentiment. Et le ressentiment, qui suit la multiplication des problèmes de conscience rencontrés par chacun, isolément, empoisonne l'existence, s'il n'y a pas d'autre destin à ces problèmes de conscience que la rumination. La conscience professionnelle est un facteur de santé autant que d'efficacité, mais seulement quand elle est entretenue, quand elle peut se développer. Dans l'objet du travail se logent les conflits du travail. Le conflit de critères vient par l'objet, il vient du réel, il n'est pas a priori dans la tête des gens. C'est le réel qui va faire monter les conflits de critères, car le service et le service à la personne, ce qui se développe dans le travail. Le réel, le travail de service, rend le travail intense, au sens psychologique et au sens social du travail, au sens de délibérer, de réfléchir à l'intensité du travail. Et je pourrais dire vive cette intensification-là, pas celle qui refoule l'intensité qui vient du réel. Avec les conflits de critères, il y a deux solutions. Soit je dirige, avec un bon protocole, de bonnes procédures, je vais pouvoir pasteuriser, simplifier les conflits du réel, je vais simplifier la procédure et les prescriptions. Plus il existera de conflits de critères et plus je produirai du script, car je pense ainsi pouvoir les réduire. J'espère supprimer les dilemmes du réel. Exemple, le bon professionnel, c'est ça. Ça ne se discute pas. On pourrait bien sûr blâmer le mauvais manager, mais je crois qu'on n'a pas besoin de ça. La situation est suffisamment complexe. Les conflits sont dans le monde, et si on les dénie, ils s'enquistent, et c'est une voie dangereuse. Le script est un bouclier, il repousse les problèmes compliqués. C'est un instrument défensif au plan psychologique et social. C'est un moyen finalement de se protéger de la situation. Il peut régler un problème dans le travail, mais il déplace le problème hors du travail, et il peut aller jusqu'à empoisonner la vie de famille. La deuxième voie, qui est plus difficile à suivre, n'est pas l'ennemi du protocole ni de la procédure, à condition qu'il reste un objet de dialogue institué sur les conflits de critères. Instituer la controverse sur les critères de la qualité du travail, car en matière de qualité du travail, la controverse sur le travail bien fait est la seule issue. Et d'abord entre pairs, mais pas seulement. Car la santé a à voir avec l'organisation du travail, sa capacité à être ressource en permettant à ceux qui travaillent de parler de leur travail, mais la santé a aussi à voir avec le soutien social que peuvent apporter ceux qui travaillent à une organisation qui se retrouve de fait fragilisée par le déni du conflit. Et le déni peut être levé en mobilisant les ressources psychologiques et sociales qui proviennent de leur activité conjointe, direction et collaborateurs. Ainsi, instituer des espaces de dialogue pour les professionnels sur les conflits de la qualité du travail, pour les dirigeants sur le sens de la performance, entre eux, est un enjeu pour les organisations du travail. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à une invitation qui avait été faite par un collègue ce matin. La performance dialogique, en citant Yves Clos, la performance dialogique, c'est ça. C'est d'organiser des cadres qui permettent de faire en sorte que la parole soit action et pas seulement communication. On ne parle pas simplement pour se faire du bien ou pour déposer là des problèmes, on parle pour agir. Et quand une parole qui ne sert à rien, eh bien c'est une parole qui prépare à ne rien faire. Comme le dirait Yves Clos, organiser la controverse sur les critères de la qualité du travail, eh bien, c'est la meilleure prévention en santé que l'on puisse trouver contre les risques psychosociaux. Alors, par exemple, il en a été question tout à l'heure, le signalement, un moyen effectivement, massivement utilisé dans certains milieux, est un moyen finalement de quoi ? Eh bien, c'est un moyen de tenir à distance le travail dans sa complexité, dans son épaisseur, dans les conflits qu'il peut poser. Le signalement, c'est un moyen de dénier finalement les conflits dans le travail. C'est un moyen qui permet de les déplacer sur les personnes, de considérer que le problème, il est d'abord dans la tête des gens, pas dans les objets du monde. Le signalement, c'est finalement regarder a priori le travail comme un risque. Pas comme un pouvoir d'agir potentiel. Je sais que on assiste à un mouvement assez massif dans le champ de la prévention en santé au travail qui va dans cette direction. Néanmoins, nous considérons, nous, au regard de nos interventions, de nos travaux, de notre expérience, que ce mouvement est ruineux pour la santé. Alors comment instituer des espaces de dialogue pour les professionnels sur les conflits de la qualité du travail? Eh bien, on en parle beaucoup, c'est même très populaire, il faut faire du collectif, c'est le collectif. Mais ce dialogue, effectivement, il se construit et il se développe dans le collectif de travail. Mais il y a collectif et collectif. Celui dont nous parlons, c'est un instrument de travail. Et ne pas soigner cet instrument est une faute. Car plus il y a de conflits de critères, plus cet instrument est nécessaire. La définition que nous proposons du collectif de travail est assez iconoclaste. Le collectif de travail, eh bien, ça n'est pas quand on est tous d'accord. Ça n'est pas la belle unité ou l'histoire qu'on s'en raconte. Le collectif de travail, c'est un instrument qui permet aux professionnels de supporter le débat sur le travail, bien fait. Et entre professionnels, il existe des conflits de critères. Le collectif de travail permet d'attraper le réel qui divise, les angles morts, car le réel ne se présente pas de la même manière à tous. Tout le monde a ses angles morts. Si le conflit de critères n'existe pas, alors il n'existe pas de collectif. C'est une collection d'individus, un groupe. On est rassemblés, mais sur le déni du conflit sur la qualité du travail. Et cela est un poison social. C'est le couvercle sur la marmite dont il a été question ce matin. Le collectif, c'est l'institution du conflit critère entre collègues. On pourrait dire, c'est le fil à plomb du métier. C'est ce qui permet de maintenir la dignité du métier. Le dialogue sur la qualité du travail se pratique à tous les niveaux hiérarchiques. Il permet de rester branché sur le réel, sans tricher avec lui. Et s'il n'y a pas de collectif comme instrument de travail, alors nous retrouvons le florilège de l'activité empêchée, de l'activité ravalée, de ce qui reste sur l'estomac, tout ce qu'on ne fait pas et qui se retourne contre soi ou contre les autres. Et nous retrouvons souvent cela dans les situations de harcèlement moral. J'ai conscience que nous sommes ici à rebours de ce qui existe en analyse du travail. On touche en effet du doigt que le plus fatigant, le plus ruineux pour la santé, ce n'est pas ce que l'on fait, mais tout ce que l'on ne peut pas faire. C'est une drôle d'affaire en réalité. La fatigue chronique de tout ce qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire, la fatigue moderne en somme, il existe deux fatigues. La mauvaise, celle qu'on ramène à la maison, qui empêche de dormir, c'est paradoxal. Le lendemain, on est pris dans le piège de ce qu'on ne peut pas faire, c'est la ruine mentale. La bonne fatigue, elle existe, c'est l'effort, qui n'est pas le contraire de la santé. L'effort qui n'atteint pas son but, qui n'est pas payant, qui est sans résultat, est contraire à la santé. L'effort qui produit une fatigue, qui fait qu'on atteint son but, fait qu'on dort bien. C'est un éloge de l'effort qui est une condition de la santé, l'effort efficace. Dans le monde du travail, ce que l'on observe est que l'on n'est pas assez fatigué de la bonne fatigue, celle que je vous souhaite et que je nous souhaite. Un mot sur le stress, la belle affaire. Il existe des divergences entre psychologues du travail sur ce sujet. La définition classique est reprise par tous les partenaires sociaux et on aurait envie de critiquer tout le monde, direction, syndicat, académie, qui postule que l'individu n'a pas de ressources. L'individu est d'emblée trop vulnérable. Il est une victime des mutations du travail, des exigences produites par ces mutations du travail. L'individu est trop faible pour répondre aux mutations et aux exigences du travail. Le stress n'est pas toujours forcément négatif. Et les tensions, le conflit, non plus, ne sont pas forcément des catastrophes au travail. Ils peuvent, sous certaines conditions, ne soyons pas naïfs, sous certaines conditions, être des occasions de dépassement des contraintes et des limites rencontrées dans son activité, et devenir, sous certaines conditions, je le répète, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'un stress négatif, il peut devenir un opérateur de santé. De notre point de vue, ce ne sont pas les inévitables aléas du travail ou les difficultés rencontrées au quotidien par les travailleurs pour parvenir à réaliser ce qui est à faire qui compromettent la santé au travail. Et on pourrait retourner la question. Dans le premier cas, donc, les individus sont trop petits, il faut les aider à trouver de la ressource, avec des psychologues d'ailleurs, pour apprendre à gérer leur stress, pour rendre supportable ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. Dans le second cas, on s'interroge et on se demande à quelles conditions les organisations du travail peuvent trouver des ressources, peuvent devenir ressources. Vous voyez, c'est une définition inverse du stress ici. Ici, ce ne sont pas les individus qui sont trop petits, mais les organisations du travail qui sont trop petites. Pourquoi ? Pour répondre aux exigences des travailleurs de continuer à faire un travail de qualité. Ce sont les organisations du travail qui sont souvent trop étroites et il convient de desserrer l'étau de ce carcan en instituant des cadres pour faire descendre l'organisation du travail dans les problèmes concrets. Descendre dans les problèmes concrets, pas monter en généralité trop vite en faisant remonter les problèmes. Alors, pour finir, je voudrais faire un focus sur les métiers où, comme dans le vôtre, l'objet du travail est un sujet et de surcroît vulnérable. Quand l'objet travaillé est matériel, la controverse est quasi spontanée car le geste se voit, on peut toucher, le collègue peut voir ce que l'autre fait, il voit l'état de l'objet. Il y a un côté immédiatement visible, finalement, du geste professionnel. Mais plus on va vers les services, plus l'objet travaillé, c'est la relation à l'autre. L'autre, comme un objet de son travail. Et du coup, on est confronté à des conflits de critères différents, à des conflits de critères nouveaux. Par exemple, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pas seulement au sens de justice et injustice, mais aussi au sens de qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Quels sont les critères du bon soin? Qu'est-ce qu'un accompagnement de qualité? Quand l'objet du travail se déplace au niveau des personnes, alors les conflits de critères se déplacent aussi et on les retrouve du côté des valeurs. Dans ce cas, comme dans vos métiers, le travail est moins visible. Toutes ces questions deviennent plus compliquées et il est nécessaire de l'instruire davantage du coup. Le travail est plus intense, pas seulement au sens de l'intensification des tâches, il est plus intense car il pose des questions de sens. Pas seulement d'efficience, c'est-à-dire comment j'arrive à atteindre mes objectifs avec les moyens dont je dispose. On est ici, le geste professionnel, il a à voir avec la question du sens qui devient une question de rapport à autrui. La question du sens, elle devient une question d'échange, une question de comment je me conduis avec l'autre. Toutes ces questions complexes, bien évidemment, ne peuvent pas se régler en dehors de l'organisation systématique de controverses de métier, car c'est très difficile à prescrire tout cela. Alors en conclusion, au-delà du déjà dit, la santé au travail réclame le développement de débats d'école exigeants sur la qualité du travail, les accords de façade, les silences entendus et même la plainte exprimée envers l'organisation du travail, parfois même avec raison, se révèlent souvent comme des obstacles à surmonter. Car paradoxalement, la déploration peut aussi faire lien. Et ce lien est une déliaison dangereuse. Peut-être que la notion de harcèlement moral, prise isolément de la question du travail concret et des dilemmes auxquels il confronte, fait écran à cette question centrale de l'institution du conflit sur les critères de la qualité du travail. Qu'il s'agisse de harcèlement moral, de harcèlement institutionnel, de harcèlement organisationnel, il ne faut pas oublier qu'il y a un oublié dans cette affaire. Cet oublié, c'est le travail, c'est le métier. Parce qu'à travers toutes ces questions-là, c'est aussi le travail qui est harcelé, qui est négligé. Le travail qui est devenu un angle mort, qui est devenu un tabou. J'ai conscience du caractère inédit de la voix que j'ai développée devant vous. Cependant, les travaux sont là. Les professionnels, quel que soit leur niveau hiérarchique, quel soit le milieu dans lequel nous intervenons, nous le disent, faire ça, ça fait du bien. Dans sa correspondance, Marcel Proust écrivait que la seule manière de défendre la langue française, c'était de l'attaquer. Eh bien, par transposition, on pourrait dire que la meilleure façon de prévenir les situations de harcèlement moral, c'est en défendant le métier, c'est-à-dire en s'y attaquant, en cultivant les affects, les techniques, les émotions qui le gardent vivant. Le déni du conflit n'est pas sain, car il fragilise ceux qui travaillent en amputant leur pouvoir d'agir.
Voilà un niveau de complexité qui pour nous... Est-ce que vous pourriez, pour redescendre dans le réel, simplement nous dire comment... Non, posez pour nous, sinon je sens qu'ils vont s'endormir. Voilà. Non, c'est la question après, pour nous, et c'est une des questions que je souhaitais vous poser, c'est comment est-ce que le travail, par exemple, que vous avez conduit, que vous conduisez avec des équipes, comme celle chez Monsieur l'Archevêque, avec des équipes de soins, comment ce travail-là, est-ce que vous l'avez déjà conduit, vous m'avez dit oui, avec des équipes de direction? Et quelle forme peut prendre le dialogue sur la qualité et les critères de qualité du travail chez des managers, parce qu'on n'est pas forcément au milieu de la santé?
Alors, nous avons conduit une intervention récemment avec des directeurs de direction départementale du travail,
où nous avons mobilisé, déployé avec eux exactement les mêmes dispositifs méthodologiques que ceux que nous déployons quand nous travaillons avec des ouvriers sur chaîne de montage, avec des assistantes sociales, avec des enseignants, avec des aides-soignantes ou des AMP. Ce sont des méthodes qui sont pensées, qui sont conçues pour l'action. Ce sont des méthodes que nous appelons méthodes indirectes et qui nous permettent de mettre au travail le travail. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on faisait un tour de table et que je vous demandais à chacun ce que vous faites, en deux phrases, trois maximum, si vous êtes prolixe, vous aurez fait le tour de la question. Or, ce serait vous faire affront que de penser qu'en trois phrases, on peut résumer l'épaisseur du travail que vous réalisez. Parce que l'expérience professionnelle, c'est quelque chose d'intégré, quelque chose d'incorporé, quelque chose qui est fait avec le temps, ce qu'on appelle l'expérience, qui est fait d'automatisme. Quand je dis automatisme, je ne parle pas du geste automatique d'un robot. Quand je dis automatisme, je le dis au sens psychologique du terme, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas accessibles immédiatement à la conscience, mais qui sont là, à portée, pas loin, mais spontanément, on n'y pense pas. Donc, pour accéder à cette expérience professionnelle, à son épaisseur, à ce sur quoi achoppent les professionnels, ce sur quoi ils butent, ce qui les met en tension, ce qui les met en conflit dans leur activité, et qui fait que parfois, ils se retrouvent dans des impasses, nous allons utiliser des détours, nous allons utiliser... de l'effet de surprise, de l'étonnement, du rire. Nous allons construire, donc déployer dans des cadres méthodologiques très précis, les conditions de pouvoir attraper l'épaisseur de l'expérience professionnelle. C'est-à-dire aller au-delà du discours convenu, au-delà des généralités, au-delà de la récitation de la fiche de poste qui nous est donné et qui est donné assez spontanément quand on demande aux gens ce qu'ils font, quand on demande de décrire, ça se dit ça, décrivez-moi ce que vous faites. Alors nous, on n'est pas dans la description, on est dans l'exploration. Et l'exploration de quoi ? Eh bien l'exploration qui va permettre d'aller attraper, d'aller soulever des trappes qui nous permettent d'accéder au réel de l'activité. C'est-à-dire tout ce sur quoi je bute. Mais le réel de l'activité, ce n'est pas seulement les empêchements au travail. Le réel de l'activité, c'est aussi toutes les ressources dont je dispose, mais dont je n'ai pas encore forcément conscience. Donc, ce sont des cadres dialogiques réglés, parce que, je l'évoquais tout à l'heure, le dialogue, quand on dit dialogue, nous, c'est en référence à un certain statut que l'on donne à la parole. La parole, elle n'est pas simplement un exutoire. La parole, elle est action. Donc ce sont des cadres très référés théoriquement, mais qui nous permettent effectivement de faire en sorte d'instruire et d'installer entre des professionnels d'un même métier, ça c'est important en termes de méthode, ce sont des professionnels d'un même métier, quel que soit leur métier, un même métier, un même niveau hiérarchique, eh bien nous commençons par mettre au travail des questions de métier, des questions qui émergent du terrain. On ne part pas, on ne va pas monter en généralité, on va partir du concret, du travail. Vraiment, comme tout à l'heure pour la guichetière, le paquet bien fait. Pour elle, ce sera le paquet bien fait. Eh bien, pour un manager, ce sera autre chose. Mais ce sera dans le détail de cette action. Donc, si vous voulez, peut-être la particularité, l'originalité de nos méthodes, de nos moyens d'action, c'est d'être résolument tourné du côté du concret du travail, pas comme une fin en soi, parce qu'il ne s'agit pas de faire juste l'inventaire des difficultés que l'on rencontre. Donc, pas seulement comme une fin en soi, repérer le travail dans ces achoppements, mais comme un moyen. Et un moyen de quoi ? Eh bien, un moyen de mettre en dialogue ces points d'achoppement, d'abord entre des professionnels d'un même niveau hiérarchique, pour ensuite les adresser à leur hiérarchie. Parce qu'il ne s'agit pas d'extraire des difficultés dans un groupe et de rester localisé géographiquement à ce groupe. Il s'agit de mettre en dialogue, de mettre en résonance les questions qui émanent du terrain, qui mettent en tension ceux qui travaillent, qui parfois, où les réponses parfois les dépassent, et d'adresser ces questions à ceux qui, donc aux concepteurs du travail finalement, qui essaieront d'apporter des réponses, ces réponses étant orientées du côté, en tout cas c'est ce qui est visé, du côté de la transformation des situations de travail. Voilà, donc on est en prise et en phase avec le concret et le réel de l'activité. On essaye en tout cas.
Alors, je regrette qu'on n'ait pas plus de temps pour aller plus loin. C'est déjà, je trouve, un chantier, une voie qui s'ouvre au moins pour les managers d'équipe, pour un travail qui peut avoir lieu sur le travail qu'on réalise, sur ce qu'on appelle, nous, le terrain, c'est-à-dire dans chaque établissement. On voit comment cette perspective-là, concrètement, elle peut ouvrir des voies. Et ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on a appris beaucoup à penser en termes de solutions, et que ça, ce n'est pas une solution, c'est une action. Et qu'à la vérité, on ne sait pas forcément exactement ce que ça va produire. Mais bon, je trouve intéressant qu'on laisse cette porte, cette voie ouverte, qui montre que même dans des marges de manœuvre, ce qu'on appelle nos marges de manœuvre restreintes, il reste de la capacité à agir, et nous avons la capacité à agir, au moins à travailler sur notre propre travail. Je vous remercie.
Juste, si vous permettez, c'est pas une anecdote, un retour d'expérience. J'ai travaillé avec des directeurs d'usines dans un groupe de taille internationale. Et vous savez que toutes les usines aujourd'hui sont soumises, en tout cas dans l'industrie, à des systèmes de production. C'est-à-dire, on produit conformément à un standard. Donc il y a, prétendument, une seule manière de faire. Donc ce sont des cadres dirigeants, des professionnels qui avaient sous leur autorité entre 500 et 6000 personnes, et qui, à un moment donné, ont choisi de travailler sur la visite de l'atelier, ce qu'on appelait la visite de l'atelier, la visite où le patron descend dans l'atelier et va serrer la main à, entre guillemets, ses ouvriers, pour reprendre des représentations anciennes. Et en même temps, c'était l'occasion pour eux d'aller voir un petit peu si le système de production était, si les règles de ce système de production étaient respectées. Ils étaient persuadés qu'ils faisaient tous la même chose, puisqu'il y avait un standard à appliquer. Donc s'il y a un standard, c'est qu'il y a une manière de faire, donc ils font tous pareil. Et je crois que, je ne veux pas le dire en termes de choc, mais la surprise la plus forte pour eux et la plus vitalisante, parce qu'elle a été à l'origine d'un travail très intéressant de retournement de la situation, c'est de faire l'expérience que malgré la certitude qu'ils avaient qu'il n'y avait qu'une seule manière de faire, eh bien, ils ont fait l'expérience que sur un groupe de 10 personnes, ils faisaient tous différemment. Pour le même objectif, ils faisaient tous différemment. Et d'envisager, de faire cette expérience, que contrairement à ce qu'on pouvait penser, il y a d'autres manières de faire, donc d'autres manières de contourner les problèmes sur lesquels on pensait être le seul à choper. On fait l'expérience que la limite, elle n'est pas seulement personnelle, elle est dans le travail et qu'elle peut se repousser, qu'on n'a pas tous les mêmes réponses à apporter. Eh bien, d'abord, ça fait du bien. Les gens disent, je croyais que c'était moi qui étais nulle. Mais en fait, non, c'est pas que ça, c'est pas si simple que ça. Donc il y a cette expérience qui est faite, et puis plus profondément, c'est l'expérience qu'on peut finalement, en découvrant les ressources chez l'autre, petit à petit, on découvre aussi en soi certaines ressources qu'on n'avait pas soupçonnées. Et on fait cette expérience qu'il est possible finalement d'imaginer des manières de faire autres là où on pensait qu'il n'y en avait pas et que ça n'était pas possible. Et la santé pour nous, elle est de ce côté-là, elle est du côté d'un processus créatif, elle est du côté de cette capacité à produire de la norme, et pas seulement dans le silence des organes.